bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout court, tout simple. Craignez-vous Dieu? C'est un message important parce que c'est l'ossature principale de notre appel, de notre cheminement vers la vie éternelle. Vous savez, il y a une différence totale entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Et au début, quand on vient à l'Église et qu'on voit ça, craindre Dieu, on a de la difficulté à bien définir ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, dans le message, on va le voir avec beaucoup plus de précision peut-être et d'élaboration pour nous montrer clairement et nous donner la satisfaction et l'encouragement de voir ce que c'est et l'importance de ce que c'est, de craindre Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Au contraire, tout à fait le contraire. C'est de ne pas avoir peur de lui du tout. C'est de se sentir en confiance avec lui, de s'appuyer sur lui, de compter sur lui. Allez dans les lettres de l'apôtre Jean, juste avant le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Les lettres de l'apôtre Jean, on va aller à 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4. Et on va lire le début du verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. On a déjà parlé de ce verset-là. Et quand on arrive là-dessus, parfois on a de la difficulté à définir ce que ça veut dire. Mais j'aimerais aller plus loin aujourd'hui pour vous montrer la profondeur de ce que c'est, l'importance de ce que c'est, et en même temps, la clarté, dans le fond, de ce que ça dit, même si au premier abord, ça semble compliqué. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Je ne vais pas plus loin, on va revenir tantôt dans la deuxième partie du verset. Définissons simplement, bibliquement parlant, par la Bible, qu'est-ce que c'est l'amour? Allez juste un peu plus bas, dans 1 Jean chapitre 5, probablement dans la même page de votre Bible, si c'est la même chose que la mienne. 1 Jean 5 et le verset 3. Là, on va voir exactement c'est quoi l'amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Très, très simple. Aimer Dieu, ça veut dire garder ses commandements, s'efforcer de vivre selon ses lois. Ça, c'est l'amour véritable de Dieu. Et ça nous aide à comprendre le verset que je vous montre. Revenons à 1 Jean 4, le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Voyez-vous, parce que si j'ai l'amour de Dieu, que je lui demande son Saint-Esprit, je le mets en pratique pour vivre selon ses lois, j'ai pas besoin d'avoir peur. La crainte n'est pas dans l'amour quand je pratique les lois de Dieu. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand on aime Dieu, qu'on s'efforce de vivre selon ses lois, ça élimine la peur. Quelle peur? Il le dit tout de suite après. Et c'est ça que je veux vous amener à voir, les nuances dans ce passage-là. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, c'est-à-dire plus on met en pratique la pratique des commandements de Dieu dans nos vies, ça bannit la peur. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais vous, il dit ici, la crainte ou la peur, ça suppose un châtiment. Ça se comprend. Parce que si je transgresse les lois de Dieu, je suis en danger de mort éternelle. C'est de ça dont je dois avoir peur. Et comprenez-vous pourquoi que si j'ai l'amour de Dieu, et que plus j'ai l'amour de Dieu, plus je pratique ses voies, moins j'ai peur du châtiment, parce que je m'en éloigne. Je plais à mon Dieu, et il va me donner la force de passer à travers. Je pense qu'en voyant le verset de cette façon-là, on voit à quel point c'est positif, et que c'est pas la peur de toutes sortes de choses, c'est la peur du châtiment éternel dont il est question ici. Parce qu'on peut être craintif de traverser la rue ou de sortir le soir ou de choses comme ça. C'est pas de ça dont il est question ici. C'est la peur de perdre notre vie éternelle. Alors maintenant, la crainte n'est pas dans l'amour, voyez-vous, mais l'amour parfait bannit la crainte. Plus on pratique les lois de Dieu avec son aide, moins on a peur du résultat dangereux en bout de ligne si on pratique le mal. car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors ça, c'est notre chemin vers la vie éternelle, dans l'amour de Dieu, par sa puissance. Tout ça va ensemble. Voyez-vous, si nous continuons, alors qu'on est appelé par Dieu, alors qu'on le connaît, si nous continuons de transgresser ses lois, je ne parle pas d'une faiblesse temporaire ou de quelque chose qu'on n'a pas terminé de régler définitivement, mais si nous continuons de transgresser ses lois, que nous ne nous efforçons pas de tout éliminer ce qu'il y a de négatif dans nos vies, c'est que nous lui sommes désagréables. Nous nous éloignons de lui. Et à ce moment-là, c'est logique de réaliser qu'on peut avoir peur de ce qui nous attend. Surtout une fois qu'on a signé l'alliance dans le sang du Christ de lui appartenir. Parce qu'une fois qu'on signe l'alliance, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut aller au but et l'atteindre. Par notre force, impossible. Mais si on est proche de Dieu, qu'on le supplie, et quand on manque notre coup, qu'on lui demande pardon, qu'on regrette et qu'on travaille à éviter ce qui nous amène à pécher, on est en route. Et l'amour parfait qui est en train de se perfectionner en nous élimine la peur du châtiment éternel. Bien sûr, on n'est pas parfait tout d'un coup. Ce serait formidable, mais c'est pas possible. M. Armstrong expliquait souvent que Dieu ne peut pas créer un caractère parfait instantanément dans un individu. Il faut que la personne choisisse d'obéir à Dieu et le fasse pendant une période de temps. Et en fait, doit le faire jusqu'au retour de Christ. Parce qu'on ne sera pas parfait tant que le Christ ne viendra pas et tant que lui-même ne nous rendra pas parfait le jour de son retour. Donc, on ne peut pas être parfait d'un seul coup. Dieu sait qu'on part de loin et il sait que nous avons des progrès à faire pour atteindre le but. Mais Dieu est bon et Dieu est juste et Dieu est toujours prêt à nous pardonner quand on regrette nos fautes et qu'on ne veut plus les commettre et qu'on fait ce qu'il faut pour ne plus les commettre. Alors Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est capable de nous aider à y arriver et c'est ce qu'il veut et il est prêt à tout faire pour ça. 1 Jean 4, on est dans ce passage-là. 1 Jean 4, verset 17, le verset précédent de ce que je viens de vous montrer. Tel il est, en parlant de Dieu, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pourquoi il dit ça? Tel Dieu est, tel nous sommes nous dans ce monde actuellement? Oui, si nous sommes appelés, si nous avons son Saint-Esprit, si nous marchons dans son amour, nous sommes comme lui. Nous sommes en train de devenir comme lui. Alors tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Voyez-vous, si on fait ça, l'amour est en train de devenir de plus en plus parfait en nous, parce qu'on va ressembler de plus en plus à Dieu, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Comprenez-vous qu'à ce moment-là, si on fait des efforts soutenus pour obéir à Dieu, c'est que on n'a pas peur du jugement, on n'a pas peur des conséquences. Au contraire, comme il dit ici, on a de l'assurance au jour du jugement. Et le jour du jugement pour nous dans l'Église, c'est quand? La Bible nous dit, c'est Pierre qui a écrit ça, il dit, le jugement commence par la maison de Dieu, par les quelques-uns que Dieu appelle actuellement. 1 Jean 5, 2, 4. Revenez à la page suivante. 1 Jean 5, 2 à 4. On va relier ça, ça va ensemble. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. On s'aime entre nous, les frères et sœurs dans l'Église. On apprend à se connaître, même si nous sommes très différents au point de départ. On apprend à s'apprécier et à s'aimer, malgré nos différences. Alors il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ça commence là. Pour aimer nos frères et sœurs, et pour qu'ils soient vraiment nos frères et sœurs, pour avoir le même Père, Dieu. Et si on développe la mentalité de Dieu, on apprend à aimer nos frères et sœurs comme Dieu les aime, lui. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. On revient encore à ça. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et regardez le verset 16 du chapitre 4 auparavant, qui va exactement avec ça. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Mais oui, ça nous a été donné gratuitement à nous, ensuite, d'en faire ce qu'il faut. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu, il s'est révélé à nous, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Et si vous observez le sabbat, si vous travaillez à changer pour lui plaire, c'est parce que vous croyez Dieu. Non seulement croire en Dieu qu'il existe, mais vous croyez ce que Dieu vous dit de faire. Vous êtes en train de mettre en pratique. Dieu est amour. Et c'est ce que nous devons devenir aussi, pour être comme lui. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si vous et moi, nous continuons à mettre en pratique ses lois, à célébrer ses fêtes, à soutenir son œuvre, nous demeurons dans l'amour de Dieu et nous développons cet amour-là. Et après, il dit, et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en vous et en moi, si on est en train de faire ça. C'est tellement, tellement encourageant. Alors, voyez-vous, je reviens là-dessus, parce que c'est le thème que je veux développer aujourd'hui. La crainte de Dieu, ce n'est pas un synonyme de peur. Loin de là. C'est l'obéissance à ses lois, tout simplement. C'est d'avoir de la révérence envers le gouverneur de l'univers qui nous a tout donné. La vie, les choses à voir, à apprendre, à faire, l'espérance que nous avons, le merveilleux monde à venir. Alors, la crainte de Dieu, c'est de le connaître davantage, de lui obéir, de respecter ses commandements et de chercher à lui plaire de tout cœur. Et la crainte de Dieu, dans ce sens-là, c'est la vraie sagesse. C'est aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique, mais c'est la vraie sagesse. Et ça nous est donné aussi. On ne peut pas se vanter d'avoir une sagesse quelconque. La sagesse humaine ne vaut rien. Elle peut aider les êtres humains au niveau matériel, physique, à faire certaines choses. Mais la vraie sagesse qui compte dans la vie, en fonction de la vie éternelle, c'est la sagesse de Dieu. Job, chapitre 28. Allez dans le livre de Job, s'il vous plaît. Job, chapitre 28. Job, chapitre 28. Et nous allons lire le verset 20. D'où vient donc la sagesse? Alors, la question est posée. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Parce que la vraie intelligence des choses, la compréhension des choses importantes, des choses de nature spirituelle, elle est associée à la sagesse qui vient de Dieu aussi. Ça va ensemble. Alors, il pose la question, d'où est-ce que ça vient? Regardez maintenant le verset 23. On va lire les versets 23 à 28. C'est Dieu qui en sait le chemin. Mais oui, parce que c'est lui qui l'a. Il est sagesse. Il est amour. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Rien ne lui est caché. Il perçoit tout sous les cieux. Tout ce qui se passe à la grandeur de la planète, il le sait à chaque instant, à chaque fraction d'instant. Regardez le verset 25. Et ça, le premier bout de ce verset-là, ça me touche vraiment, je trouve ça frappant comme description. Il dit, quand il régla le poids du vent, il parle ici de Dieu en tant que créateur qui a créé toute chose. Il dit, à un moment donné, il a réglé le poids du vent. J'allais dire, oui, mais le vent, ça pèse rien. Est-ce qu'on peut mettre le vent sur une balance? Ça pèse rien. Ça pèse. Je vais vous donner l'exemple. Le vent, c'est puissant. Et même si c'est impossible à toucher comme tel, s'il vente très fort, ça peut vous jeter à terre. Il y a un poids au vent, à la force du vent. Intéressant de voir dans ce sens-là. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, comment il allait avoir de quantité d'eau, quand il donna des lois à la pluie qui tombe, qui accomplit son travail quand elle vient sur la terre, qui fait germer les plantes, elle est régie par une série de lois que Dieu lui a données. Il ne faut pas oublier que Dieu, c'est le législateur suprême. C'est lui qui a mis toutes les lois qui sont en opération dans l'univers. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, ça aussi, c'est régi par des lois très précises. Verset 27. Alors il vit la sagesse et la manifesta. La sagesse était en lui. Ça fait partie de sa puissance, de son être. Et il l'a manifesté en établissant toutes ses lois, les lois physiques dont il vient de parler et les lois spirituelles qu'il nous montre dans sa parole. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici le message pour nous maintenant. Puis il dit à l'homme, Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, le fait de révérer Dieu, de le reconnaître pour qui il est, pas d'en avoir peur, mais de l'aimer, de mettre en pratique ses lois, de respecter ce qu'il nous dit de faire, il dit ça, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, ça va avec, c'est l'intelligence. C'est de comprendre quels sont les moyens pour être heureux nous-mêmes et pour rendre les autres heureux. C'est ça que Dieu veut faire. Il est en train d'établir une famille. Il le fait avec un tout petit noyau de personnes actuellement. Et après le retour de Christ, ça va s'étendre au reste de l'humanité. Mais ce qu'il veut, c'est que l'humanité le connaisse, qu'elle reçoive la sagesse et l'intelligence des choses pour être heureuse, comme à nous c'est donné maintenant, même si nous devons vivre dans des circonstances difficiles pour l'instant. On nage à contre-courant, nous, parce qu'on est appelé dans un monde mauvais, méchant, qui tire à sa fin, vraiment. Alors que dans le monde de demain, les gens n'auront pas à lutter contre Satan et à avoir une société autour qui va complètement à l'encontre des lois de Dieu. Ce sera beaucoup plus facile pour eux que ça l'est pour nous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que, en ce qui nous concerne, nous sommes appelés à avoir des postes de direction dans ce monde-là. Nous allons enseigner ces gens-là, les guérir, les encourager, les bénir de toutes sortes de façons. C'est pour ça que nous devons démontrer à Dieu, dans les conditions où nous vivons, que nous tenons à lui appartenir. Et que même si ça nous demande des sacrifices, des efforts, de la persévérance, des pleurs même envers lui pour lui demander son aide, il nous permet de passer à travers ça parce qu'il veut faire de nous l'élite autour du Christ pour aider le monde entier ensuite. Tous ceux d'entre nous qui auront passé à travers toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de choses difficiles, mais qui auront tenu le coup, seront capables d'aider les gens dans le monde de demain. On aura les aptitudes qu'il faut et l'empathie qu'il faut. On les comprendra parce qu'on est passé par là, voyez-vous. C'est ce que Dieu fait. Alors il dit, voici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. On vient à dire à ça. Et si c'est s'éloigner du mal, c'est aimer Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est aimer Dieu. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Psaume 119, verset 165. Pas besoin de vous y reporter, mais Psaume 119, verset 165 dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il dit pas il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi quand tout va bien autour, ou quand ils sont pas malades, ou quand ils sont riches et en santé, ou non. Pour ceux qui aiment ta loi, même dans toutes sortes de circonstances, ceux qui s'appliquent à aimer ta loi, à t'aimer, à vivre selon tes voies, ceux-là ont une paix d'esprit, même au milieu de choses difficiles, même au cœur de grandes difficultés parfois. Alors, voyez-vous, ce dont il faut avoir peur, c'est pas de Dieu. Dieu, il faut s'approcher de lui, compter sur lui, l'aimer. Mais il faut avoir peur des conséquences si nous nous éloignons de Dieu. Nous qui avons été appelés et nous qui avons été baptisés de tenir bon. Si vous cherchez à faire la volonté de Dieu en toute chose, au mieux que vous pouvez, vous craignez Dieu. C'est ça, vous n'avez pas peur de lui. Mais vous êtes en train de craindre Dieu, ce qu'il dit dans sa parole. Vous êtes en train, quoi, de le croire, de croire ses paroles, même de les mettre en pratique. Vous l'admirez et vous lui dites. Et c'est bon qu'on lui dise qu'on l'admire. Parce que plus on lui dit, plus on le ressent et plus ça devient nous. Plus on craint Dieu, plus on le respecte. Plus on respecte ce qu'il nous demande de faire, plus on respecte ses décisions, même si on ne les comprend pas toujours, faut mettre en pratique, même si on ne comprend pas toujours. Je me rappelle l'exemple extraordinaire de Monsieur et Madame Armstrong. Quand Monsieur Armstrong a trouvé que les fêtes de Dieu n'avaient jamais été abolies et qu'il fallait les observer, il ne comprenait pas pourquoi. Mais il les a observées seul avec Madame Armstrong pendant 7 ans sans les comprendre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de 7 ans, Dieu lui a donné de comprendre qu'est-ce que ces fêtes représentaient. Et ça a ouvert une toute nouvelle compréhension, une toute nouvelle intelligence des choses, et ça lui a permis d'entrer dans la sagesse de Dieu par rapport à son plan. C'est extraordinaire. Alors, il faut chercher Dieu, chercher à faire sa volonté de tout cœur, et c'est le croire, le respecter, l'admirer, Ça ne veut pas dire être parfait, comme je dis tantôt. Ça veut dire être en route vers la perfection et ne pas diminuer, de garder l'enthousiasme par rapport à ça. De croire ce que Dieu dit, de croire ses lois et de les mettre en pratique. Allez à Matthieu, chapitre 5. Un passage que vous connaissez très bien, mais qui s'applique dans la perspective de ce que je vous explique aujourd'hui dans le message. Vous savez, le monde en général ne croit pas Dieu, un. Deux, ne le connaît pas non plus. Trois, la plupart ne veulent pas mettre en pratique les choses qu'ils voient. Et beaucoup, même dans des églises, même dans les églises du monde, même dans les églises chrétiennes, rejettent les commandements de Dieu. S'ils ne les rejettent pas tous, ils rejettent au moins le sabbat. Très, très fort. Et les fêtes, très, très fort aussi. On va être d'accord en général avec les autres qu'il ne faut pas tuer. Bon, ils vont dire oui, on est d'accord. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les guerres. Regardez les conflits dans les familles. Regardez toutes les meurtres qui se font. Est-ce que c'est parce que les gens croient au commandement de Dieu? Non. Ils sont séparés de Dieu pour l'instant. Un jour, ils auront leur chance. Dieu va leur donner l'occasion. Mais les gens ne croient pas Dieu et ne croient pas aux lois de Dieu. Nous, faut en être imbus pour que ça devienne non seulement notre deuxième nature, mais que ça devienne nous-mêmes, notre première nature. Regardez ce que le Christ a dit ici dans Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. C'est tellement simple. Pourtant, il y a tellement de personnes qui disent, ah, le Christ est venu pour abolir la loi. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère, mais le Christ, lui, c'est le Dieu du Nouveau Testament, d'après leur façon erronée de voir. Et le Christ, lui, a aboli la loi parce que c'était trop difficile, parce que c'était impossible aux êtres humains de l'accomplir. Le Christ n'a pas dit ça du tout. Il a dit le contraire ici. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Même il a extensionné la dimension de la loi dans toute sa perspective spirituelle. Et il dit plus loin, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, c'est très clair là-dessus. Personne ne peut dire que les lois ont été abolies, changées, diminuées. Absolument pas. Elles sont restées les mêmes. C'est pour ça que les apôtres originaux et le Christ lui-même et la petite Église à travers les siècles ont toujours mis en pratique les lois de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 20 ensuite. Car je vous le dis, si votre justice ou ce que vous pensez être juste dans ce que vous faites, car si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Très simple, très, très clair, et c'est lourd de conséquences en même temps. Voyez-vous pourquoi c'est bon de revoir ces fondements-là qu'on regarde aujourd'hui, qu'on en devienne de plus en plus convaincus et que ça nous encourage? Et pourquoi aussi on a besoin chaque jour de se nourrir de la parole, de l'étudier chaque jour, pas de la lire vite en 5 minutes, en un petit bout, puis s'en aller, mais de se garder avec du temps chaque jour pour prendre le temps de la lire, de regarder ce que les mots veulent dire, puis d'en faire notre guide de vie. Et quand on voit des choses qui sont pas claires, posez des questions au ministère. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore non plus dans la Bible, qu'on comprendra plus loin. Mais quand vous arrivez à certaines difficultés, ou certaines choses qui semblent être des contradictions, comme dans les écrits de Paul, prenez le temps de faire une recherche là-dessus et posez des questions. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand il y a un verset sur lequel on n'a pas de clarté ou sur lequel on n'a pas de réponse qui nous semble illogique ou qui nous semble contraire à d'autres versets, il faut prendre le temps d'étudier comme il faut. Allez dans Romains 10. Romains 10, je vais vous donner un passage ici qui prête à confusion facilement. Romains chapitre 10. Ça nous arrive tous de tomber sur des versets comme ça, puis ça nous amène des doutes. Soyez pas inquiète si vous avez des doutes, c'est normal. Mais vérifiez les choses. Vous allez trouver les réponses. Peut-être pas tout de suite. Un, demandez à Dieu de vous éclairer. Deux, prenez le temps de faire une recherche. Trois, posez des questions au ministère et on va vous répondre au mieux. Si on n'a pas la réponse, on va vous le dire. Ou si moi, je n'ai pas immédiatement la réponse, je vais vérifier auprès de mes supérieurs et je vais vous venir avec la réponse si on a une réponse. Parce qu'il y a des domaines, comme je vous dis, dans la Bible qui ne sont pas encore tout à fait clairs pour nous. On verra au fur et à mesure. Il n'y a pas un grand nombre de versets qui ne sont pas clairs et qui prêtent à confusion, mais il y en a. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait, et il ne faut pas que ça devienne une pierre d'achoppement pour nous. Vérifions les choses dans ce qu'on peut comprendre, mais prenons le temps de vérifier le contexte. Regardez, Romains 10 et le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça peut-tu être plus clair que ça? Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Il s'agit juste de prononcer son nom, puis on a le salut. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient ça. Certaines personnes dans le monde chrétien, dans les églises chrétiennes, qui croient qu'il s'agit simplement de croire en Jésus-Christ, de prononcer son nom. C'est pour ça que dans Matthieu 7, le Christ dit, c'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mais vous, c'est vraiment toute la différence. Il faut regarder les autres versets qui expliquent ça. Qu'est-ce que c'est le salut? Être sauvé, c'est recevoir la vie éternelle. Quelles sont les conditions pour recevoir la vie éternelle? La Bible explique ça très clairement. Reportez-vous simplement à 2 Timothée, chapitre 2, pour faire contrepoids à cette petite phrase-là ici qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 19. On peut prendre juste ce verset-là et ça explique quiconque prononcera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a des conditions à ça, que c'est pas automatique, il s'agit pas juste de le prononcer et ou de croire puis qu'on est sauvé. Regardez le verset 19 de 2 Timothée 2. Néanmoins, le solide fondement, et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui, un fondement, la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Lui, le fondement, il changera jamais, là. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu sait qui il a appelé et Dieu sait qui a répondu vraiment à son appel. Dieu sait qui, parmi ceux qui ont répondu, met en pratique de tout cœur et le supplie de les aider à avancer, à changer, à se préparer à ce qui vient. Il le sait, il connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne sont pas vraiment là de tout cœur. Il sait ceux qui lui appartiennent. Et regardez, après, il donne le principe qui explique le verset qu'on a vu dans Romains tantôt. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voyez-vous, pour que le fait de prononcer le nom du Seigneur ait de la valeur, que ça veuille dire quelque chose, que ça ait du sens et que ça donne quelque chose, il faut que je m'éloigne de l'iniquité. Donc, il faut que j'apprenne à pratiquer l'amour de Dieu qui consiste à mettre en pratique ses lois, c'est-à-dire à le craindre, ne pas en avoir peur, mais à respecter ce qu'il demande que je fasse et à m'appliquer avec son aide à le faire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à deux ou trois endroits, je pense, « Suivez-moi comme moi je suis le Christ ». Autrement dit, suivez mon exemple alors que moi je suis l'exemple du Christ. Alors, vous, il y a des choses à faire. Et c'est des choses qui sont très simples, très claires, précisées à de nombreux endroits dans la Bible. Dieu ne nous laisse pas dans le vide par rapport à ce qu'il faut faire pour arriver au salut. Le salut nous est donné, c'est un don. Mais on a des choses à faire pour recevoir le salut. Vous savez une chose? Allez dans Jean 5, Jean chapitre 5. Vous savez une chose? Peut-être ça va vous surprendre, mais en préparant le message d'aujourd'hui, ça m'est venu à l'esprit, puis j'ai trouvé ça très encourageant. Vous savez une chose? Est-ce que le Christ avait peur de son Père? Non, hein? Il n'avait pas peur de son Père. Est-ce que le Christ craignait son Père? Oui, 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 le Christ craignait son Père. Il le révérait, il voulait faire sa volonté à tout prix, même qu'il en a payé un prix extrême, celui de sa vie. Il aimait son Père, il n'en avait pas peur, mais il voulait faire sa volonté. Regardez ce que Jean 5, verset 30, rapporte du Christ. Ce sont ses paroles mêmes. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, mon jugement est sage, mon jugement est exact et selon la volonté de Dieu, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comprenez-vous pourquoi je me suis rendu compte en préparant le message que le Christ craignait son Père, que le Christ aimait son Père, qu'il voulait faire sa volonté. C'est toutes des synonymes, cela. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté, c'est s'appliquer à faire sa volonté. Retournons aux lettres de Jean, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean, la première lettre de Jean, le chapitre 2, et on va lire le verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ça revient à l'explication que je vous ai donnée tantôt. Si on met ces lois en pratique, c'est parce qu'on connaît le vrai Dieu. Et si on les met en pratique, c'est que nous sommes dans son amour et que l'amour de Dieu est en nous et avec nous et qu'il nous aide. C'est ça. Voilà. C'est ça, connaître Dieu. C'est marcher dans ses voies, respecter ce qu'il nous demande. Verset 4 à 6. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et ça dit qu'il n'est pas dans la vérité. Il ne connaît pas le vrai Dieu en réalité. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu est en nous, avec nous, agissant dans notre vie, si nous gardons sa parole. Et c'est bien dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on doit s'en inspirer et en vivre. Alors, il dit ici, l'amour de Dieu est véritablement parfait dans celui, c'est-à-dire l'amour est en train de se perfectionner dans celui qui garde sa parole, qui la met en pratique de mieux en mieux. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Et ça, c'est rassurant, parce que quand on est proche de lui, lui est proche de nous. Et quand on le prie, il nous répond toujours. Pas toujours selon ce qu'on désire, ni au moment où on désirerait avoir la réponse, mais selon sa sagesse, qui est la sagesse la plus extraordinaire qu'il peut y avoir. On peut lui faire confiance entièrement là-dessus. Quand vous regardez le père des croyants, par exemple, Abraham, est-ce qu'Abraham avait la crainte de Dieu? Oh oui. Il respectait Dieu. Est-ce qu'il était parfait? Non. La Bible nous montre des péchés qu'Abraham a faits. Et tous les serviteurs de Dieu et les grandes servantes de Dieu n'étaient pas des êtres parfaits. La Bible dit que tous ont péché. Et c'est le cas. Mais Abraham avait la crainte de Dieu. Il voulait mettre en pratique ses lois, ses voies. Et c'est à cause de l'obéissance d'Abraham envers Dieu que nous sommes aussi bénis aujourd'hui. Là, je parle principalement de nos nations israélites qui ont connu une époque fulgurante de prospérité depuis les années 1800 à venir jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes entrés malheureusement dans une période de déchéance qui s'accentue parce qu'on se détourne de plus en plus de Dieu. Nos nations se détournent de Dieu. Mais nous sommes bénis. Nous avons autant de richesses dans nos nations, imméritées, parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Et ça a été transmis ensuite à Isaac, son fils. Regardez, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Et nous allons lire les versets 4 et 5. Ici, Dieu dit à Isaac qu'il lui transfère les mêmes promesses faites à son père. Isaac a obéi à Dieu aussi. Mais parce qu'Abraham a obéi, il transmet ces bénédictions-là à son fils. Et il promet que les autres générations vont en bénéficier. Il dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et ça, il y a toute une explication extraordinaire à donner là-dessus. On y reviendra une autre fois. Pourquoi? Pourquoi toutes ces bénédictions extraordinaires que Dieu donne et qu'il dit que ces bénédictions-là seront assurées à la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc à nos descendants modernes d'Israël? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voyez-vous comment la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à ses lois, elle est importante. Et quel fruit elle peut apporter? Si l'obéissance d'Abraham a amené tout ça sur l'entière nation d'Israël, et particulièrement à notre époque depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, des bénédictions aussi grandes sur le plan physique et sur le plan spirituel. Imaginez ce que ça va faire dans le monde de demain, quand il y aura toute une famille en action. Les descendants spirituels du premier des croyants, Abraham, ceux d'entre nous qui auront persévéré jusque-là et qui allons devenir des bénédictions pour les autres, parce qu'on sera des outils dans les mains de Dieu pour transformer le monde en un monde meilleur. Et quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, Abraham connaissait déjà Dieu. Il le connaissait bien, il connaissait son amour, et il savait qu'il était le Tout-Puissant. Et quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il a été prêt à le faire immédiatement. Il n'a pas hésité, même si c'était sûrement un déchirement incroyable. Mais il croyait à cet être majestueux, tout-puissant, avec qui il avait eu des contacts réguliers jusque-là. Il lui faisait entièrement confiance, comme nous, on doit lui faire entière confiance. Et il est devenu comme ça père des croyants. Mais quand Dieu a vu qu'il était disposé à le servir jusqu'au bout, comme il allait le faire, il l'a empêché de mettre son fils à mort, comme ça lui avait été demandé. Et Dieu a répandu les bénédictions. Intéressant, parce que voyez-vous, Abraham n'avait pas peur de Dieu. Abraham craignait Dieu. Abraham le respectait. Abraham avait appris à l'aimer, à lui faire une entière confiance. C'était contraire à ce que les premiers parents ont fait, Adam et Ève, qui, eux, se sont détournés. Écoutez, Adam et Ève ont eu le même genre de rapport avec Dieu que Abraham a eu, contact direct. Dieu les a enseignés pendant sûrement très longtemps, comme M. Barovitch a expliqué dernièrement. Donc, ils le connaissaient aussi. Ils voyaient ce que Dieu avait fait, la création qui était autour d'eux. Et il leur a donné la voie à suivre pour être heureux. Mais il leur a donné le choix, comme Abraham avait le choix. Mais Abraham a fait la bonne décision, alors qu'Adam et Ève n'ont pas pris la bonne décision. Allez dans Genèse chapitre 2. On est dans Genèse, allons au chapitre 2, juste un peu avant. Chapitre 2, versets 16 et 17. Dieu avait dit à Adam et Ève, avait dit à Adam en particulier, parce que c'est lui qui était en charge du couple, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'était la désobéissance à Dieu qui amène le châtiment éternel, la mort éternelle, ce qu'on doit redouter, ce dont on doit avoir peur, conséquence de mauvais choix, conséquence du péché. C'est ce qu'il nous mentionne ici. C'est frappant de voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On sait que Adam et Ève ont rejeté Dieu, se sont détournés de lui, ont fait le mauvais choix, l'ont rejeté. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont eu peur. Là, la vraie peur s'installe. La peur du châtiment. Et en même temps, cette peur qui vient quand on est séparé de Dieu. Quand on est séparé de Dieu. Il n'y avait plus de recours. Le couple a eu peur à ce moment-là. Genèse 3, versets 7 et 8. Après qu'ils ont eu pris le fruit défendu, dans le fond, ils disaient à Dieu, on ne veut pas avoir tes enseignements. On veut nous-mêmes décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et on voit dans la société humaine depuis ce temps-là les mauvais fruits de ça. Verset 7, Genèse 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Écoutez, ils étaient nus avant, tous les deux pareil. Ils avaient peur de quoi, là? Il y avait de quoi qui était changé dans leur mentalité? C'est qu'ils réalisaient à ce moment-là leur erreur, et ils réalisaient la culpabilité qui pesait sur eux. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel. Est-ce que Dieu leur avait fait du mal? Pas du tout. Il leur avait montré comment être heureux, mais il leur avait donné le choix. Ils avaient fait le mauvais choix, et là, ils avaient peur, parce qu'ils étaient séparés de lui, séparés de son aide. Vous savez, on a raison d'avoir peur. Une fois qu'on est appelé, si on ne fait pas ce qu'on sait devoir faire, parce qu'il y a des conséquences. Ne pas croire Dieu, s'éloigner de lui dans ces circonstances-là, ça veut dire de l'insécurité, parce qu'on est séparé de notre source de protection, d'encouragement, de bénédiction. Et on se sent démuni. Adam et Ève, c'était leur cas. Ils se sentaient seuls et sans recours, à tel point même qu'ils ont pris le chemin inverse et qu'ils sont allés se cacher de Dieu, plutôt que d'aller vers lui et de dire « Aide-nous, on a mal agi ». Ils ne se sont pas repentis, ils sont allés dans l'autre direction. Et quand on va trop loin dans l'autre direction, c'est difficile de revenir. Ça a été la même chose pour les Israélites, quand vous regardez leur histoire. Quand Moïse est monté à un moment donné pour aller sur le mont Sinaï, pour recevoir la loi, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il leur a dit au peuple qui était en bas de la montagne? Il a dit, je reviendrai. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple n'a pas cru. Le peuple n'a pas cru le serviteur que Dieu avait désigné, le serviteur que Dieu avait mis en charge de la nation israélite. Ils n'ont pas cru le serviteur désigné par Dieu. Parce que selon eux, selon leur perception des choses, Moïse retardait, Moïse tardait à revenir. Voyez-vous, ils se sont basés sur leur perception, leur façon de voir, leur analyse des choses, et là, ils s'éloignaient de Dieu. Ils ont attendu un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont fait leur propre choix. Ils se sont détournés de Dieu en se détournant de son gouvernement. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour s'en sortir, ils se sont appuyés sur leurs propres idées, sur leurs propres solutions. C'est ça qu'ils ont fait. Regardez Exode 32. Allons dans Exode chapitre 32, s'il vous plaît. Exode chapitre 32. Du verset 1 à 6, vous avez la description de ce qui s'est passé. Le peuple voyant, verset 1, que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Déjà là, leur décision étant prise de rejeter Dieu, ils ne comprennent plus que ce n'est pas Moïse qui les a sortis, mais la colonne de feu et la colonne de nuée qui étaient avec eux le jour et la nuit quand ils sont sortis d'Égypte. Ce même Dieu qui les avait protégés de la mort le soir de la Pâque, déjà, ils l'avaient rejeté, mis en oubli, et là, ils cherchaient à se faire un point de secours. Ils cherchaient à se mettre une béquille en dessous des bras, si vous voulez, pour pouvoir avancer. Un faux Dieu. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il n'y avait pas à le savoir. Moïse avait dit, attendez-moi, je vais revenir. Aaron leur dit, là après ça, Aaron leur dit, amenez-moi tous vos bijoux et tout ça. Et on voit dans le contexte qu'Aaron a fait fondre l'or, l'argent et tout ça, et qu'il a fait un veau d'or. Et c'est lui qui l'a fait. Et il leur a dit, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Même Aaron a joué le jeu. Aaron a eu peur, parce qu'Aaron, lui aussi, avait commencé à s'éloigner de Dieu et à voir les choses à sa façon. Ce qui était le plus frappant pour lui, c'est ce qu'il voyait devant lui. Les gens qui se révoltaient et qui demandaient à ce qu'il se passe quelque chose, au lieu de les calmer et de prendre sa responsabilité au risque de sa propre vie, s'il fallait. C'était lui qui était en charge à ce moment-là. Il a laissé faire, il a accepter ce que les gens demandaient de faire. Comprenez-vous? Alors, Aaron a eu peur de diriger le peuple et il a cessé lui-même de compter sur Dieu. Et il a commencé lui aussi à voir les choses différemment. Nous, là, à l'époque où on est rendu, dans les circonstances qui se développent autour de nous, quelles qu'elles soient ces circonstances-là, et quelle que soit la gravité qu'elles vont prendre, ou la direction qu'elles vont prendre, nous, il faut vraiment avoir les yeux sur Dieu et sur le monde qui vient. Parce que ça approche. Et il faut garder nos yeux sur le puissant Dieu de l'univers qui nous a promis tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. Il faut garder les yeux sur lui et non pas se laisser avoir par les circonstances autour et avoir peur. C'est inconfortable, c'est vrai que c'est inconfortable. Mais plus on met les yeux sur ce qui se passe autour, plus on se sent inconfortable. Mais si, tout en regardant un peu ce qui arrive, en suivant les nouvelles un peu pour voir ce qui se passe, si on met l'accent d'abord sur avoir les yeux sur Dieu pour se nourrir chaque jour de sa parole, pour le prier quotidiennement, pour encourager nos frères et sœurs, pour développer l'esprit de famille, pour soutenir l'œuvre, à ce moment-là, Dieu nous donne la force d'avancer et de passer à travers. C'est formidable. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne à faire, qu'on aille de l'avant avec ça. Parce que Dieu veut qu'on garde les yeux sur lui. Vous regardez l'exemple qui a été donné aussi concernant le premier roi sur Israël. Même chose qui est arrivée que par Aaron, le roi Saül, que Dieu avait oint comme premier roi sur Israël. Dieu avait dit, vous irez voir dans 1 Samuel 15, vous avez tout le chapitre qui décrit ce qui est arrivé. Samuel lui avait donné l'ordre, la part de Dieu, d'éliminer Amalek, toute la nation, une nation méchante à ce moment-là. Dieu savait que la nation devait être éliminée, un peu comme il avait fait au moment du déluge. Dieu a éliminé tous les êtres humains qu'il y avait à ce moment-là sur la face de la terre, sauf Noé et sa famille. Mais Dieu savait que ces gens-là, il allait les ramener à la vie, à la deuxième résurrection, et leur donner une vraie occasion de le connaître et de changer. Mais s'il les avait laissés aller plus loin dans le mal, où ils étaient rendus, ils auraient sans doute été après irrécupérables. Et c'est pour ça que Dieu les a effacés de la terre. Il va leur donner leur chance plus tard. Même chose ici. C'est ce qu'on voit. Alors, donc, avec les Amalécites, je veux dire, Dieu va leur donner leur chance. Mais Dieu avait dit à Saül, éliminez-les complètement. Et quand vous voyez dans le chapitre, Saül a gardé le roi, Agar. Et le peuple a gardé les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, alors que Dieu avait dit, vous enlevez la vie à tout ce qu'il y a dans cette nation-là. Le roi, les gens, les vieillards, les enfants, les animaux, tout ce qui est vivant, vous les éliminez. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Saül n'a pas cru Dieu. Saül n'a pas craint Dieu. Saül n'a pas aimé Dieu. Ça va jusque-là. Il a suivi ses propres idées et non pas l'ordre clair que Dieu avait donné. Il a suivi son raisonnement humain et ça a entraîné son rejet de Dieu et tout ce qui s'en est suivi. Il a perdu son trône et la nation d'Israël qui l'a suivi a payé un cher prix pour tout ça. Parce que si on se fie sur la nature humaine, si on met nos yeux sur nous-mêmes, si on s'apitoie sur soi-même, qu'on cherche nos solutions, à ce moment-là, on laisse notre nature humaine prendre le dessus. Et Dieu nous explique clairement dans Romains 8, verset 6, que notre nature humaine, elle est ennemie de Dieu. Donc, elle est ennemie de la sagesse, elle est ennemie de l'intelligence des choses, et elle est ennemie d'un bon comportement qui nous mène à une vie réussie. On doit faire ce qui est juste et maintenir cette direction-là. Saül a perdu son trône et le peuple a payé un prix énorme. Et il y a eu des conséquences tout au long de l'histoire de ce mauvais choix-là. On apprend beaucoup là-dedans. Vous savez, le Christ nous dit clairement ce qui s'en vient. Clairement ce qui s'en vient. Il nous a avertis et nous sommes en train d'entrer dans les derniers jours dont le Christ nous a parlé. Allez dans Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. C'est très clair. Le Christ nous a dit, il l'a mentionné à ses disciples à l'époque, mais en fait, ça s'appliquait pour nous qui sommes rendus au temps de la fin. C'est le message pour nous encourager, pour nous faire réaliser où nous sommes rendus et le fait que nous devons faire ce que nous avons à faire, soutenir l'œuvre, finir d'annoncer l'Évangile et nous préparer aux choses qui viennent. Alors, il a donné des signes clairs précédant son retour. Il a parlé des faux prophètes, il a parlé des tremblements de terre qui allaient se multiplier, des changements climatiques qu'on voit dans d'autres passages. Il a parlé des sécheresses, des famines et ainsi de suite. Et en nous disant qu'il faut nous préparer et qu'il faut rester prêt. Nous savons ce qui vient. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Nous savons ce qui vient. Et c'est le temps de vraiment le considérer. Regardez versets 11 à 14. Dans les versets précédents, il a donné les grands événements qui devaient arriver au temps de la fin. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire les transgressions des lois de Dieu. Et c'est frappant parce que on le voit partout, ça. Même, écoutez, on regarde seulement les bulletins de nouvelles. Nous, on regarde pas la télévision à part de ça. Mais même dans les bulletins de nouvelles, ils passent des petites annonces de d'autres émissions, de choses comme ça. Et on voit que les gens prennent plaisir aux mensonges, prennent plaisir à regarder des choses sanglantes, des choses violentes. On est rendu dans ce monde-là. C'est la fin de l'histoire. Et parce que l'iniquité, la méchanceté, la transgression des lois de Dieu se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui, et ça s'adresse à vous et à moi, au temps de la fin, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, on est entré dans les temps de la fin, mais on n'est pas rendu à la toute fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il recevra la vie éternelle. Et il passera à travers. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ce qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire. Nous le faisons maintenant, par la puissance de Dieu, parce que nous sommes rendus au temps de la fin. Une prophétie qui s'adresse à nous et qui nous démontre la puissance du grand Dieu que nous servons. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage, pas pour convertir personne, mais pour rendre la vérité disponible, de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez-vous que ça s'adresse à nous? Il nous préparait dans ce sens-là. Il ne nous a pas, selon sa promesse, laissé orphelins. Au contraire, il nous aide. Alors voyez-vous, craindre Dieu, l'aimer, mettre sa loi en pratique dans nos vies, c'est vraiment ce qui compte. La crainte de l'Éternel, mettre ses lois en pratique et nous préparer à changer le monde, c'est la solution à tous nos problèmes, à nous, mais c'est la solution pour tous les problèmes de l'humanité. Et je parlais justement avec des membres de l'Église cette semaine qui me disaient, Monsieur Brochu, plus on voit ce qui se passe autour, plus on dit bien. Et c'est vrai, hein? Avec plus d'intensité. On voit le monde être tellement triste, tellement désemparé, tellement inquiet, tellement malheureux et tellement souillés aussi dans tout ce qu'ils font, tellement violents, de plus en plus violents, dans des scènes anodines parfois. Les gens sont intolérants et les gens croient n'importe quoi, toutes sortes de théories impossibles. C'est triste. C'est un monde triste, un monde malheureux, un monde inquiet. Ils n'ont pas les yeux sur le vrai Dieu. Alors que vous et moi, parce que nous avons été appelés, nous pouvons développer encore plus de garder nos yeux et notre cœur tournés vers Dieu et vers le Christ. Psaume chapitre 18, s'il vous plaît. Les yeux vers le Christ et vers son royaume. Psaume chapitre 18. On va lire à partir du verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Ailleurs, c'est écrit que Dieu va au-devant de celui qui prenne plaisir à mettre ses lois en pratique, même s'ils ne sont pas parfaits. Alors, il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis avec droiture. Et avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon leur perversité. C'est-à-dire que Dieu, actuellement, comme c'est écrit ailleurs dans sa Bible, dans Romains 1 en particulier, laisse aller le monde au bout de ce qu'il a choisi de faire, au bout de sa méchanceté, au bout de sa folie, malheureusement. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. C'est qui le peuple qui s'humilie? Ce sont les quelques appelés à travers le monde actuellement qui reconnaissent que Dieu est tout et que nous, nous sommes rien, que nous avons besoin de lui pour tout et que nous lui demandons sa miséricorde pour nos fautes et son aide pour changer. Voilà le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. C'est des choses qui viennent bientôt. Dieu va faire rendre des comptes à tous les êtres humains. L'humilité, c'est la base de notre salut. Est-ce que je suis hautain aux yeux de Dieu? Ou est-ce que je suis humble? Et si je cherche à lui demander son aide pour changer dans ma vie tout ce que j'ai à changer? C'est ce que Dieu veut voir. Et plus on le fait, plus on a une assurance d'être dans l'amour de Dieu et de marcher dans la lumière, comme ça nous a été expliqué dans la sermonnette tantôt, d'être dans la lumière de Dieu avec Dieu, parce que ces sentiers sont des sentiers de lumière. Si vous craignez l'Éternel, si vous craignez Dieu, si vous l'aimez, vous cherchez à mettre en pratique ses lois, bien sûr, vous allez avoir des épreuves de toutes sortes. Les humains autour de vous, qui ne sont pas appelés, ont des épreuves de toutes sortes aussi. Mais nous sommes dans ce monde-là, et Dieu permet nos épreuves, permet les défis que nous rencontrons, justement pour nous développer à lui faire confiance et à persévérer dans ses voies, même si le monde autour de nous n'accepte pas ces voies-là, et même les rejette de plus en plus. Il y aura des épreuves, mais vous n'aurez pas peur du châtiment, parce que vous vous en allez vers la vie éternelle. Vous n'aurez pas peur des conséquences, parce que vous êtes en train de vous purifier. Et vous serez bénis. Dieu nous appelle pour nous bénir. Il permet qu'on passe par des choses difficiles, parce qu'on doit développer notre caractère, et on doit être prêt pour servir dans le monde à venir. Mais il va nous bénir. Regardez psaume 118. Psaume 118, juste un peu plus loin. Psaume 118, on va lire les versets 6 et 7. L'Éternel est pour moi. Si je suis avec Dieu, Dieu est avec moi. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et on peut être absolument certain de l'accomplissement de cette promesse infaillible. L'Éternel est pour moi. Si je suis pour lui, je ne crains rien. Je ne crains pas les conséquences éternelles. Je peux compter sur Dieu même pour les difficultés physiques que je peux avoir. Que peuvent me faire des hommes? Verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Pourquoi? Je suis pas content d'avoir des ennemis. Mais il y a une dimension dans le fait d'avoir des ennemis, si vous voulez, ou de l'opposition, ou des choses contraires, parce que ça sert Dieu, ça sert le but de Dieu pour développer notre caractère. Dieu veut voir si on va tenir solide, même si on a de l'adversité. On peut même se réjouir du fait qu'on a des ennemis. C'est pas réjouissant, mais en même temps, c'est positif. C'est dans ce sens-là. Et il faut tenir, même s'il y a des choses contraires qui arrivent, même si certaines personnes nous abandonnent ou nous rejettent. Parce que nous, on doit tenir, même pour ces personnes-là qui nous rejettent, qui sont peut-être des proches, des amis ou des anciens amis. Parce que quand on sera rendu en tant qu'être spirituel avec le Christ et qu'eux seront présents devant nous un jour ou l'autre, on pourra les aider. Et ils vont nous remercier d'avoir tenu le coup jusque-là. Dieu nous teste même par les ennemis spirituels que nous avons. Et nous serons protégés si nous sommes loyaux envers Dieu. C'est ce que M. Varovitch a expliqué cette semaine dans son étude biblique. Si on est loyaux envers Dieu, malgré les contrariétés, malgré les conflits, malgré les oppositions, malgré ceux qui se dressent contre nous, si nous sommes loyaux envers Dieu, si nous avons de la loyauté envers Dieu, Dieu va nous protéger. Regardez le verset 5, même chapitre. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Il m'a amené loin de ça. Alors voyez-vous, quoi qu'il arrive à vous, à vos êtres chers, aux gens autour de vous, ne perdez pas courage. Gardez vos yeux sur Dieu, sur le Christ, sur le monde de demain qui approche. Dieu est amour et nous sommes sous sa protection si nous le craignons. Si nous nous appliquons à lui obéir. Pas par obligation. On en vient à le faire. Il faut que ce soit comme ça. Par affection, par reconnaissance. Craignez-vous Dieu? Je pose la question autrement. Et dans le cas d'un grand nombre, je peux répondre pour vous-même. Est-ce que vous aimez Dieu? La plupart d'entre vous, et peut-être tous, vous allez me dire oui. On continue.